Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Nous vous proposons d'écouter Sociopod. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci d'accueillir chez vous la radio chrétienne Ebenezer International. Quel heureux plaisir que de pouvoir vous compter des nôtres à l'heure de cette nouvelle édition de Sociopod. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui, depuis la France métropolitaine, vous parle dans son home studio situé dans la ville de Survilliers, dans le Val d'Oise. Et je ne me lasserai jamais de vous rappeler que cette rubrique a été conçue pour encourager les écrivains, les poètes, les journalistes, les associations socio-humanitaires, bref, tous ceux et toutes celles qui se rendent compte qu'ils ont une pierre à poser dans la construction de notre société. D'ici quelques instants, nous aurons avec nous, pour la deuxième fois dans cette rubrique, le sexothérapeute chrétien M. Roger Eckermann. Notre tableau de bord nous permet de voir que vous étiez très nombreuses à écouter la première édition où il abordait avec une telle facilité, beaucoup de sagesse et surtout de respect, certains sujets considérés comme tabous dans notre société. Et convaincu que ce programme ne manquera pas de vous plaire, d'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute. Dear listeners and friends of the Digital Gospel Channel, needless to say that I'm grateful to the Lord for entrusting us this precious tool for the blessing of His people all over the world. I greet you and welcome you in this new edition of Sociopod, where we will welcome for the second time Mr. Roger Eckermann, a marriage counselor. I'd like to thank you all again for your friendly support to this ministry, and I pray that the Lord will keep on using this radio station for His glory and for your spiritual growth. I must recall you also that beside our main goal, which is preaching the gospel, we also have other topics of general interest. For more information, please have a look on our radio's homepage, www.frankradio.podomatic.com, www.frankradio.podomatic.com. Stay in tune and pitch. I'm your friend podcaster Frank, who is still speaking from France. Cari amici ascoltatori, buongiorno. Mi rallegro di poter trovarvi per una nuova edizione di questa emissione concepita per il vostro piacere. Non dimenticate che il nostro principale obiettivo è di fornirvi dei programmi edificanti per aiutarvi nella vostra marcia con il Signore. Nonostante il fatto che il programma sia in francese, io ho la certezza che vi soddisfarà e che ci comunicherete le vostre sensazioni. Vi ringraziamo del vostro interesse per questa radio e contiamo sulle vostre preghiere per il suo funzionamento. Sono il vostro amico pastore Franck Doristil,
Sociopod, sur la radio chrétienne Ebenezer International.
Effectivement, vous écoutez Sociopod et juste avant d'accueillir notre invité, M. Roger Eckermann, pour la suite de notre entretien, je vous propose avec beaucoup de plaisir ce titre de l'artiste suisse Philippe de Courroux. Pardonnez-moi. Souhaite une agréable écoute.
Pardonnez-moi de n'être pas celui que vous voudriez que je sois. Pardonnez-moi d'entrer dans votre vie comme un invité qu'on n'attend pas. Pardonnez-moi d'oser les mots qui font mal, montrer vos tombeaux, déchirer les voiles. Pardonnez-moi de jouer la vérité, la transparence, d'oser briser les tables des lois de vos silences, de pas supporter l'idée de rester sans rien faire, pour garder rampé dans la poussière. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi de parler de la vie après cette vie. Pardonnez-moi d'oser affirmer qu'on n'ira pas tous au paradis. Pardonnez-moi de percer vos secrets, de poser les questions à pas poser.
Sociobode.
Pardonnez-moi de vous bousculer dans vos habitudes, de douter, renverser vos certitudes, de vous aimer assez pour pas rester sans rien faire, pour garder rampé dans la poussière. Pardonnez-moi.
Gospel Channel.
L'émission Sociopod continue sur votre radio Ebenezer International. Je suis votre ami Franck Touristil qui vous parle depuis la ville de Rosny-sous-Bois, où notre invité Monsieur Roger Ekerman nous a accueillis amicalement dans son bureau pour ce programme. Monsieur Ekerman, vous avez pris en 2001 une retraite anticipée pour vous consacrer au ministère chrétien. Était-ce à la suite d'un constat quelconque, d'une déception? Explique-nous un petit peu.
J'ai fait toute une carrière dans l'administration. Hein. Mais par rapport à la sexualité, il y avait ce constat d'un manque d'information des chrétiens. Mmh. Hein, et cela m'avait motivé déjà pour reprendre des études dans ce domaine. Et étant jeune converti, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais converti enfant, lorsque je suis arrivé après le bac, la question s'était posée pour moi de rentrer dans le ministère à plein temps, de faire une formation théologique dans un institut biblique ou une faculté de théologie pour devenir pasteur ou évangéliste ou missionnaire. Et je n'ai pas ressenti à ce moment-là l'appel du Seigneur pour cela. Donc j'ai eu une carrière de fonctionnaire, hein, ce qui m'a libéré pendant toute ma vie du souci financier. Mm-hmm. Mais je rappelle quand même que quand on est chrétien, on est serviteur de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et même quand on a un emploi alimentaire par ailleurs, mais sans avoir à être payé comme pasteur, j'étais libre, je ne coûtais rien, tout en ayant mes engagements. Quoi. Alors à partir du moment où j'avais la possibilité de partir sans trop y perdre au niveau de ma retraite, c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement, mais j'étais quand même dans un corps de fonctionnaires qui était réputé difficile, puisque s'occuper de jeunes délinquants, c'était pas facile. J'avais quand même une prime de risque, C'est un métier difficile et je bénéficiais encore de dispositions qui me permettaient de partir à 55 ans. Donc je n'ai pas demandé mon reste. Dès que j'ai pu partir, je suis parti. Et ce qui me permet maintenant de me consacrer au ministère sans être à charge financièrement.
Oui, Monsieur Eckermann, dans certaines églises chrétiennes, on n'aborde les questions sexuelles que lorsque l'un des membres est tombé dans la fornication ou dans l'adultère. Pourquoi cette hypocrisie à votre avis?
Je vous trouve à la fois conciliant, quand vous dites certaines églises chrétiennes, car il faudrait dire presque toutes, mais en même temps je vous trouve sévère quand vous parlez d'hypocrisie. Je ne pense pas qu'il y ait hypocrisie, mais on ne peut transmettre que ce qu'on a soi-même reçu. Or, les églises sont démunies. Donc, c'est pas par hypocrisie, c'est parce qu'elles ne savent pas ou elles ont peur. Pour diverses raisons, elles n'abordent pas le sujet de la sexualité. D'une part, la sexualité est tellement présente dans le monde et liée au péché que les églises ont peur d'aborder ce sujet. En outre, il est difficile d'être à l'aise avec un sujet qui concerne le plaisir. Et dans notre culture, on associe plaisir et récompense, souffrance et punition. Or, le plaisir sexuel n'est pas une récompense, donc il n'est pas mérité. Et avoir du plaisir sans l'avoir mérité, c'est source de culpabilité et de honte. En outre, c'est un sujet qui concerne l'intime, et par pudeur, personne n'ose se lancer. Donc vous voyez, toutes ces raisons font que dans les églises, on n'arrive pas à aborder le sujet de la sexualité. Remarquez bien que ce n'est pas spécial à l'Église. Et cette peur d'aborder la sexualité est fréquente dans beaucoup de familles. Alors, faute de parler positivement et de manière préventive de la sexualité, on ne le fait que lorsqu'un problème grave se pose. Un adultère, un abus sexuel. Et plusieurs fois, on m'a demandé de venir parler dans une église à la suite d'un problème grave, un petit peu comme si on avait appelé les pompiers, quoi.
Oui, merci pour cette réponse donnée avec beaucoup de sagesse. Vous vous penchez beaucoup sur le cas des jeunes, ce qui sous-entend une vraie prise de conscience du fait qu'ils ont un grand besoin de bonnes informations à ce sujet, n'est-ce pas?
Ben oui, parce que j'ai toujours travaillé auprès de jeunes. Et puis, bon, les gens âgés, le problème ne se pose plus pour eux. Donc, l'intérêt des jeunes pour la sexualité est tout à fait naturel et n'a rien de pervers ou vicieux. C'est normal que les jeunes s'intéressent à la sexualité. D'une part, leur corps découvre de nouvelles sensations. D'autre part, la sexualité fait partie du monde des adultes. Or, les jeunes sont impatients d'accéder à ce monde des adultes. Avoir un certain savoir ou même de l'expérience représente pour des jeunes la sortie de l'enfance. Donc ils ont une certaine curiosité et ils ont envie de la mettre en acte, cette curiosité. Et donc le dialogue avec les jeunes est indispensable pour justement leur donner des explications et qu'ils aient le sentiment de savoir ce qu'ils ont envie de savoir. Et plus ils ont d'explications, moins ils ont envie de passer à l'acte.
Oui, c'est ça. Et vous avez déjà donné la réponse à cette question, mais je vous la pose quand même. Certains responsables d'église et des pères et mères de famille semblent sous-estimer cette soif de la part des jeunes d'avoir de bonnes informations sur leur vie sexuelle ou sur la sexualité.
La prise de conscience de ce besoin d'information est lente, surtout chez les chrétiens. Mais c'est aussi parce qu'on a tellement de mal à aborder les questions de sexualité. Et alors, faute de réponse à leur curiosité, je le rappelle, tout à fait normale, les adolescents n'ont que les réponses de la société dominée par l'immoralité ou le rejet des principes bibliques. Mais en même temps, les jeunes sont très pudiques devant les adultes. Ils sont plus à l'aise entre eux et surtout pas avec les adultes de leur entourage, comme leur famille ou les responsables de leur église. Donc vous voyez, il y a un besoin de formation, mais les églises ne se sentent pas qualifiées pour la porter. Les jeunes n'ont pas trop envie de la recevoir de la part de gens avec qui ils vivent et qui les connaissent, et dont ils peuvent craindre le jugement aussi. Mais le besoin existe, oui.
La famille et le couple ont aussi une place prépondérante dans vos démarches. Comment l'expliquez-vous?
Je m'efforce de sensibiliser les familles à l'importance de leur rôle dans la transmission d'exemples et de valeurs. On parlait tout à l'heure de valeurs, je reviens là-dessus, puisque c'est la famille qui peut les transmettre. La sexualité n'a pas seulement un aspect mécanique que n'importe qui peut transmettre, n'importe quel professeur de science peut transmettre des informations dans ce domaine. Mais la sexualité intervient dans un couple où s'expriment des sentiments et où l'on partage des valeurs morales. Et là, il faut bien que ce soit transmis. Donc je m'intéresse beaucoup à la famille et au couple parce que c'est elle qui va pouvoir transmettre. Et si les jeunes sont plus à l'aise avec une personne extérieure à leur famille pour parler de leur corps et de leur intimité, c'est quand même avant tout à la famille de transmettre une éducation sentimentale et morale.
Et l'émission Sociopop continue sur la radio chrétienne Ebenezer International avec notre invité Monsieur Roger Eckermann, un sexothérapeute chrétien. Et je peux considérer cela comme une grande bénédiction pour l'Église, pour la société même, puisqu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de manques dans ce domaine. Quel est Monsieur Eckermann, puisqu'on parle de la famille, et dès qu'on parle de famille, il faut aussi penser à l'adultère, le divorce, l'homosexualité. Quelle est votre position face à certaines tendances que nous venons de mentionner? Comment abordez-vous ces points dont la sensibilité augmente de jour en jour?
Alors, je crois que cela a toujours existé, mais si cela est de plus en plus fréquent, c'est parce que la société, et hélas parfois aussi les chrétiens, ne prennent plus au sérieux le mariage tel que la Bible le propose, c'est-à-dire l'engagement mutuel de deux personnes l'une envers l'autre. Et souvent, le mariage n'est plus qu'une sorte de simple contrat d'association qu'on remet en cause dès que le partenaire ne donne plus entière satisfaction. On considère un petit peu le conjoint comme sa machine à laver ou son téléviseur. Quand il est en panne, on le balance. Donc, le mariage ne repose plus sur le vivre ensemble, même avec des difficultés s'il y en a, qu'on va dominer ensemble, mais sur le droit de chacun au plaisir, sexuel ou autre. D'où la banalisation du divorce, ou bien la banalisation aussi d'autres formes de vie conjugale sans engagement véritable, comme la cohabitation, l'union libre, le pax, la jouissance sans engagement. Alors l'adultère commis par une personne mariée n'est plus perçu comme une trahison par rapport à un engagement de fidélité donné au moment du mariage. C'est, la société présenterait presque ça comme quelque chose de normal. Alors je défends les principes contenus dans la Bible, non par jugement moral, mais parce que je suis convaincu que Dieu les a donnés pour notre bien et pour nous éviter bien des souffrances. Je crois que c'est pas parce que la Bible donne des règles que c'est pour nous embêter. Au contraire, c'est pour notre bien.
Et Monsieur Roger Eckermann, que pensez-vous de l'attitude actuelle des médias par rapport à la sexualité, puisqu'on s'en sert dans les publicités, pour la vente des voitures, des parfums? Cette banalisation du sexe n'est-elle pas nocive pour les plus jeunes et même certains adultes?
Je crois qu'il y a de toute façon une espèce d'escalade dans les médias par rapport à la sexualité. Alors d'une part, effectivement, elle est utilisée dans tous les domaines, comme la publicité. Mais les médias sont en permanence en situation de concurrence et des sommes considérables sont en jeu. Donc flatter les plus bas instincts, présenter les idées à la mode au détriment des valeurs traditionnelles sont des pratiques habituelles. Et on le voit bien avec toutes les émissions de télé-réalité. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, il était sorti un rapport fait par l'Institut de recherche statistique de recherche médicale, l'INSERM, sur les comportements sexuels des Français. Et ce rapport montrait finalement que 80% des Français avaient un partenaire hétérosexuel et un partenaire stable, marié ou pas, mais c'était tellement banal que ce rapport on en a parlé le jour où il est sorti et c'est tout. Parce qu'il allait à l'encontre des idées à la mode, que le français, c'est un super champion, qu'il a beaucoup de partenaires sexuels. C'était tellement banal. Ce même rapport disait que l'homosexualité concernait un tout petit pourcentage de la population. Hein. Mais il était tellement à l'encontre de ce qu'on dit habituellement qu'il est tombé vite aux oubliettes. Hein. Alors, les médias disent un peu n'importe quoi par rapport à la sexualité, et elle est un terrain privilégié pour les médias. Et en banalisant tant le sexe pour lui-même, la société, enfin les médias, lui retirent tout ce qu'il implique de sentiments et d'engagement. En même temps, on banalise toutes les perversions qui deviennent ainsi acceptables. Dans toutes les émissions de télé-réalité, tout existe. Hein, et puisqu'on l'a vu à la télé, c'est acceptable. Il est vraisemblable que dans quelques années, le mot même de perversion sera interdit. Parce que de dire que parler de perversion, c'est émettre un jugement, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Il arrivera un moment où on n'aura plus le droit d'évoquer des perversions. Il en ressort, pour les jeunes comme pour certains adultes, que tout est permis et ne porte pas à conséquence. Donc bien sûr que les jeunes, mais certains adultes aussi, ben, ils ont envie de faire n'importe quelle expérience. Et ça, c'est parce que les médias banalisent le sexe et toutes les pratiques sexuelles.
Merci bien, monsieur Eckermann. Nous allons prendre notre deuxième pause musicale. Mais juste avant, comment pouvez-vous définir la vraie libération sexuelle, puisque vous avez parlé des événements de mai 1948 68, pardon, excusez-moi, chers auditeurs. S'il y a vraiment une vraie libération sexuelle, comment la définissez-vous?
Ben, quand la société parle de libération, en fait, elle parle de prise de liberté par rapport à des règles traditionnelles. Mais alors, peut-on vraiment parler de libération? Je vais y revenir. Il est vrai que dans l'histoire, les religions, les lois ou les pratiques sociales ont toujours voulu réglementer la sexualité, et d'une certaine façon, une certaine libération était souhaitable. D'ailleurs, on le voit encore dans certains pays où il n'y a aucune liberté sexuelle ou autre, hein, et bon, où les femmes, par exemple, peuvent revendiquer d'être respectées et être considérées à égalité de droits avec des hommes. Mais donc, si une certaine libération était souhaitable, il y avait quand même une condition, c'était de maintenir quand même un minimum de règles qui donnent des limites à cette liberté. Et d'autre part, il faut aussi qu'il y ait une responsabilité qui accompagne la liberté. Or, le sexe est source de plaisir. Apprendre à différer un plaisir ou à s'en priver si certaines conditions ne sont pas remplies, c'est le fondement de toute vie en société. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais c'est valable pour le sexe, mais c'est valable pour d'autres choses. Même si j'avais du plaisir à rouler à 150 à l'heure dans les rues de Rouen, je n'ai pas le droit de le faire. Mon plaisir s'arrête là parce que la loi fixe des limites. Et c'est valable dans tous les domaines. On interdit de vendre de l'alcool ou du tabac à des mineurs. Mais en même temps, dans un pays voisin, la Suisse, on vient de commercialiser des préservatifs de petite taille pour les enfants. Il me semble que c'est une étonnante façon d'apprendre la maîtrise et la responsabilité. Ça. Alors, séparé de son contexte de sentiment, le sexe devient souvent incontrôlable. Et cette pseudo-libération sexuelle, cette fausse libération sexuelle, en réalité, est souvent un esclavage.
Cette fausse libération sexuelle, nous dit M. Roger Eckermann, est en réalité un esclavage. Et si vous vous sentez sous l'emprise de cette passion, sachez que le Seigneur Jésus a versé son sang pour votre pardon à la croix. Il vous suffit tout simplement de le recevoir dans votre cœur et il vous pardonnera toutes vos fautes, tous vos péchés. Et c'est ce que va nous chanter l'artiste Nawel. Il te pardonne, chant extrait de son album intitulé « Jour après jour ». Nawel qui sera d'ici peu notre invité dans la rubrique Mikonak, conçue pour vous aider à mieux connaître les artistes chrétiens. Écoutons Nawel. Il te pardonne.
ton cœur est habité de tristesse et de regrets.
Vous écoutez Sociopode.
Tant de déceptions face à tes questions. Plus de place pour l'espoir, mais crois qu'il n'est pas trop tard. Une chose est certaine, Dieu t'aime. Il te pardonne et il te donne son amour comme personne. Sa voix résonne, tel un chant entonne. Tu es mon enfant, je te pardonne.
Alors, Monsieur Ekerman, on parlait tout à l'heure de la libération sexuelle. Vous avez dit, s'il y en a une, il semble que vous avez quelque chose à ajouter avant d'aborder la troisième partie de l'émission.
Ben, la Bible elle-même dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que tout est permis, mais qu'il ne se laissera pas asservir par quoi que ce soit. Alors, la véritable libération, c'est de ne pas être esclave. Et c'est dans une pratique conjugale de la sexualité, débarrassée de ses tabous, de toute culpabilité, et vécue dans la confiance totale de deux personnes qui s'aiment. Je crois que c'est important, parce que là, il y a une libération. S'il y a un doute, si on peut craindre l'infidélité de son conjoint, parce qu'il a déjà eu plusieurs expériences avant, on n'est pas libre. Par contre, si on a confiance dans le conjoint, parce que c'est le premier, il a attendu, on sait qu'il a été capable d'attendre, et il n'y a aucune raison de douter de son engagement, et bien là, il y a une véritable libération. La sexualité est un moyen de communication dans le couple, un partage dans un double mouvement de donner et de recevoir du plaisir. Et sous l'influence de la société qui donne toute la priorité au plaisir, il subsiste encore, même dans des couples, le risque de tomber dans cet esclavage. Mais si on prend le plaisir comme un don de Dieu, comme une sorte de cerise sur le gâteau, et si on ne recherche pas le plaisir pour lui-même dans une sorte d'idolâtrie du plaisir, eh bien là, on est vraiment libre.
Monsieur Ekerman, en parlant de plaisir, nous n'avons pas que des couples mariés ou qui sont déjà matures pour vivre leur expérience sexuelle. Il y a aussi des adolescents, des préados, des jeunes qui attendent la Bible selon le point de vue, le mariage selon le point de vue biblique pour ces auditeurs tout à fait particuliers. Et n'est-il pas nécessaire de mettre un petit peu l'accent aussi sur la notion de continence? Comment la définissez-vous?
C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour certains jeunes maintenant, puisqu'il y a un plus grand décalage dans le temps entre le moment où le corps est formé et apte à la procréation et est capable de ressentir des sensations sexuelles et le moment où il est possible d'entrer dans le mariage. Autrefois, les jeunes à peine pubères pouvaient se marier, même certains étaient mariés avant. Donc c'est vrai que la période d'attente est beaucoup plus longue. Mais bon, la parole de Dieu nous invite à la continence, à essayer de tenir au maximum en étant continent. Et certains y parviennent, d'autres y parviennent avec beaucoup plus de peine, et d'autres n'y arrivent pas. Mais il y a un idéal que Dieu souhaite. En tout cas, il y a quand même une chose, c'est que c'est important au moins de ne pas... se souiller avec d'autres personnes. D'ailleurs, l'apôtre Paul fait la nuance, il parle de ceux qui vont vers d'autres femmes ou vers des prostituées. C'est important de se garder pur. Alors, je voudrais quand même dire aussi pour les jeunes qu'une enquête sérieuse, faite aussi par l'INSERM, a prouvé que environ le tiers des jeunes entre 18 et 20 ans n'ont jamais eu de rapport sexuel. Et ça, c'est important de le dire, parce que des jeunes s'imaginent qu'ils ne sont pas comme les autres s'ils ont attendu. Il y a à peu près le tiers des jeunes entre 18 et 20 ans qui n'ont pas eu de rapport. Alors, il y a des chrétiens, il y a des gens qui, par timidité, n'ont pas osé. Peu importe, ceux qui décident d'attendre ne sont pas anormaux. Et il faut savoir que dans les lycées, dans les collèges, quand on donne la moyenne d'âge des premiers rapports sexuels, et c'est important pour les jeunes parce qu'ils veulent être comme tout le monde, eh bien on donne des statistiques fausses parce qu'on ne calcule la moyenne qu'avec ceux qui ont déjà déclaré avoir eu des rapports sexuels. Alors bien sûr, les jeunes se vantent, certains ont tendance à rajeunir l'âge du premier passage à l'acte, d'autres disent être passés à l'acte sans l'avoir fait, mais quand on fait des statistiques pour calculer l'âge du premier rapport sexuel, on ne tient absolument pas compte de tous ceux qui ont décidé d'attendre.
Donc, à votre avis, M. Ekerman, les jeunes qui font partie de ceux qui n'ont jamais eu d'expérience sexuelle ne font pas partie d'une espèce en voie de disparition?
Non, c'est pas du tout. Pas du tout, il y en a encore. Il y a encore des gens qui attendent le mariage pour avoir des relations sexuelles.
Ces jeunes, il faut les encourager quand même.
Bien sûr, c'est pour ça que je donne ces chiffres, c'est pour les encourager.
Et nous leur disons chapeau, et s'ils écoutent l'émission, nous prions pour que le Seigneur les garde purement jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le mariage.
Voilà.
Amen. Prenons notre pause musicale maintenant.
Nous continuons avec notre programme sur la radio chrétienne Ebenezer International et c'est la dernière partie de l'émission que nous abordons avec notre invité M. Roger Eckermann, ce sexothérapeute chrétien. M. Roger Eckermann, vous proposez dans les églises une aide spécifique pour tous les problèmes relatifs à la sexualité. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples?
Eh bien, les chrétiens, comme tout le monde, ont une sexualité. Mais pour diverses raisons, c'est un sujet qui reste souvent tabou. Et mon rôle consiste d'abord à permettre d'aborder ce sujet, déjà. Alors j'interviens dans des formations de pasteurs pour les aider à comprendre les problèmes qui peuvent se poser et y apporter des réponses quand c'est possible à leur niveau. Bon, ils peuvent pas tout faire, mais ils peuvent être amenés à donner des conseils dans le cas de difficultés conjugales où ils peuvent rencontrer une situation d'adultère, de pédophilie, donc ils peuvent être amenés à donner des conseils. Je suis aussi invité dans des églises lorsqu'il y a une demande sur de tels sujets. Parfois, des églises ont envie d'aborder ces sujets ou ont envie d'avoir une information sur de tels sujets. J'interviens aussi dans des groupes de jeunes pour leur apporter un enseignement. J'ai l'avantage dans ces groupes de jeunes d'être un spécialiste neutre, libre de toute attache de leur église ou familiale. Ils sont ainsi plus libres de poser des questions ou d'évoquer leurs problèmes.
Et vous vous penchez aussi sur le cas ou les cas d'homosexualité, de la pornographie et de la pédophilie. Les classez-vous comme de vrais déviants sexuels?
Alors, je ne vais pas faire un cours sur les déviants sexuels, parce qu'il y en a d'autres que celles que vous citez. Mais parlons de la pornographie. Par les images qu'elle montre, la pornographie est loin de la sexualité conjugale. Je la considère donc comme une déviance. Il en est de même pour la pédophilie, puisque l'objet du désir sexuel n'est pas un conjoint. C'est plus compliqué pour l'homosexualité. En termes statistiques, c'est une déviance, puisqu'elle ne touche qu'une petite partie de la population, entre 5 et 10%. Mais ceux qui se ressentent ou se définissent comme homosexuels revendiquent leur liberté et ne veulent pas être considérés comme des malades ou des marginaux. En fait, pour différentes raisons mal connues, souvent liées à leur personnalité et à la façon dont cette personnalité s'est construite depuis leur toute petite enfance, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas être autrement. Ils n'ont pas choisi. Et ils ont donc droit au respect de leurs différences. Et c'est ce qu'ils revendiquent. Et c'est pour ça que la loi condamne l'homophobie. Mais je reçois aussi des gens qui souffrent de cette différence et me demande de les aider à comprendre comment ils en sont arrivés là, ou à évoluer, si c'est possible, dans leur orientation sexuelle. Et je crois que c'est important de dire quand même que les personnes homosexuelles ont droit au respect. Et il est maladroit de la part de certains chrétiens de dire à quelqu'un qui se qualifie d'homosexuel qu'il est dans le péché, parce qu'il n'a... Souvent, la personne qui se ressent homosexuelle ne l'a pas choisi délibérément.
Et dans ces rencontres, ou bien suite à ces rencontres, n'y a-t-il aucun risque dans ce sens, comme par exemple le regret de vous avoir livré des secrets les plus intimes parfois?
Non, parce que quand les gens viennent me voir, ils savent que je suis un professionnel, que je peux tout entendre sans les juger. Ils savent aussi que je respecte strictement le secret professionnel. Donc je n'ai pas parlé à quiconque de ce qu'ils m'ont révélé. Et même si cela touche à ce qu'il y a de plus intime, c'est quelque chose qui pose problème pour la personne. Et à partir du moment où sa souffrance devient trop lourde, elle décide alors de demander de l'aide. Mais elle ne le fait pas d'emblée, il faut que ça mûrisse. Et quand elle le fait, c'est qu'elle ne peut plus faire autrement. Donc jamais personne ne s'est plaint, n'a regretté de venir me voir. Au contraire, j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui ont regretté de ne pas être venus plus tôt. Parce que le problème s'est aggravé. Tel homme, par exemple, qui avait un problème dans sa sexualité avec son épouse. Et bon, il espérait que ça passerait tout seul. Et puis ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Donc, même d'ici, j'avais su, je serais venu plus tôt.
Monsieur Eckermann, beaucoup de personnes traînent derrière elles toute une vie de culpabilité.
Comment les parents peuvent-ils contribuer à une bonne image de soi chez son enfant?
Ben, il faut déjà se souvenir que cette culpabilité, elle est très fréquente et elle a plusieurs causes. Nous vivons en France et dans les pays latins, dans des pays de culture latine, sous l'influence du catholicisme, pour lequel le sexe était toujours péché jusqu'à ces dernières décennies. Et même dans le mariage, certains manuels de morale disaient que le sexe était un péché permis dans le mariage pour faire des enfants. Ça a été le cas jusqu'au concile de Vatican II dans les années 60. Mmh. Donc effectivement, il y a une source de culpabilité là. Et puis, je le disais tout à l'heure, on associe automatiquement plaisir et récompense, souffrance et punition. Or là, c'est un plaisir gratuit, donc qui entraîne honte et culpabilité. Par rapport à la sexualité, il est important que les parents ne transmettent pas une image négative de la sexualité, qui est un merveilleux don de Dieu pour le couple. Et il faut que le sujet ne soit pas tabou dans la famille et que, à l'occasion, il puisse être abordé. Déjà, c'est un moyen de lutter contre la culpabilité. Et puis, d'une manière générale, il est important de valoriser ce que l'enfant fait de bien et ne pas toujours le critiquer ou lui donner tort ou lui reprocher de ne pas avoir encore la maturité d'un adulte. Donc, c'est important de, comme dit un slogan publicitaire pour un grand magasin, de positiver ce que fait l'enfant.
Il est important de positiver l'enfant, de l'encourager, de mettre l'accent surtout sur ses bonnes réalisations au lieu de toujours pointer du doigt sur ses faiblesses.
Parce que sinon, on entretient la culpabilité chez l'enfant.
Et quels conseils donneriez-vous aux parents qui se sentent incompétents dans ce domaine, surtout pour aborder le sujet sexuel à leurs enfants?
Ben, je crois que c'est déjà important que les parents soient convaincus de leur responsabilité dans ce domaine. Et s'ils ne font pas d'éducation, d'autres s'en chargeront. Ce seront les copains, les marchands de pornographie ou la société en dehors de toute référence morale. Alors, il n'y a pas d'âge particulier. Une question m'est souvent posée, mais comment en parler à nos enfants? Je pense que c'est important que dès le plus jeune âge, les parents répondent aux questions des enfants pour que les enfants se rendent bien compte que le sujet n'est pas tabou et que les parents sont la meilleure source d'information. Alors, bien sûr, avec quels mots? Surtout avec des petits, on ne sait pas. Si on est embarrassé par la question du langage, quels mots employer? Qu'est-ce qu'on doit dire, ne pas dire? Moi, je conseille de partir de ce que les enfants savent déjà et peuvent dire avec leurs propres mots. Vous savez, quand un enfant pose une question, c'est parce qu'elle a déjà entendu parler du sujet. Et le mieux, c'est alors de lui faire dire ce qu'il en pense, ce qu'il a entendu, ce que disent les copains. Et ensuite, on peut alors reprendre, corriger, compléter. Il est important que l'enfant soit entendu et qu'il ait déjà une première réponse. Et puis, il viendra plus tard chercher la suite. S'il a besoin, il viendra chercher des compléments. Mais c'est important de répondre à l'enfant et avec ses mots à lui, avec son niveau de langage. On ne répond pas à un enfant de maternelle en citant un article du dictionnaire sur la sexualité. Alors, quand les parents se sentent incompétents, eh bien, ils peuvent lire des livres d'éducation sexuelle. Ça peut leur donner des idées. Non pas pour apprendre par cœur ce qu'ils doivent dire aux enfants, mais pour sentir un peu l'esprit, avoir des idées de ce qu'ils peuvent dire. Puis c'est aussi un moyen de se sentir plus à l'aise. Quand on a lu, on sait un petit peu... Alors, j'ai peut-être une petite limite avec les adolescents. Il n'est pas sain que les parents partagent avec leurs adolescents leur propre intimité. Je crois que la barrière des générations est importante et on peut donner des règles. Les parents peuvent transmettre des choses générales, mais il ne faut pas qu'ils racontent leur vie privée. Ça, c'est important de garder une certaine distance. Et pour aborder avec des adolescents ces questions d'intimité, dans le respect de la pudeur des parents, comme des enfants, il est préférable que quelqu'un d'autre de confiance s'en charge. Par exemple, un responsable de groupe de jeunes, ou un autre membre de la famille, ou un grand frère, ou quelqu'un avec qui l'adolescent se sent bien. Mais parfois, il vaut mieux que ce ne soient plus les parents. Et moi, je le vois dans certaines églises où j'interviens, parfois, le pasteur amène ses enfants et il repart. Il n'est pas là au moment où on aborde ces questions-là.
Est-ce que, à votre avis, dans certaines familles où ce sujet, ce tabou a été levé depuis l'enfance de l'enfant, ne pensez-vous pas qu'il y a sans doute quelques familles qui ont la possibilité d'aborder ce sujet à tous les enfants, quel que soit leur âge, dans la maison, puisque dès leur plus jeune âge, on a toujours été à l'aise pour parler de ce sujet.
Ben c'est plus facile quand on a été soi-même instruit et quand il y a une ambiance qui est favorable. Hein. Si on ne doit aborder la sexualité qu'avec des termes choisis, en disant attention, ce soir on va parler de sexualité. Non, il faut que ce soit pareil. Faut que ça passe dans le commun. On prend pas un enfant à l'écart pour lui apprendre à se laver les dents. Hein. On lui dit comme ça. Et puis bon, s'il y a une occasion, un film à la télévision, un événement d'actualité qui parle d'un pédophile, c'est des occasions d'en parler. Il faut que ce soit naturel. Tout simplement que ce soit naturel.
Il faut cultiver vraiment cet esprit d'ouverture.
De liberté.
De liberté.
Hein, tout en respectant la pudeur de chacun.
Merci bien, Monsieur Eckermann. Nous approchons vers la fin de l'émission. Ne vous a-t-on jamais traité de puritain suite à vos publications, comme par exemple cette fameuse lettre à un adolescent ou à une adolescente?
Non. Jamais par rapport à mes publications, pour une raison très simple, c'est qu'elles sont diffusées en milieu chrétien. C'est arrivé une fois qu'un confrère non chrétien, qui avait consulté mon site, réagisse, n'était pas d'accord. En fait, il reportait sur moi toute l'agressivité qu'il avait, en partie à juste raison, sur la religion qu'il accusait de toujours réprimer la sexualité. Mais jamais par rapport aux publications.
Et combien d'ouvrages avez-vous publié déjà ?
Pas beaucoup, je ne suis pas écrivain. J'ai écrit pour mes études, puisque j'ai fait la mémoire pour la faculté de médecine. J'ai écrit et il m'est apparu après coup que ça pouvait être utile pour les chrétiens de partager ça, et de donner aussi un enseignement aux chrétiens. Donc mes études, mes mémoires de fac ont été publiées sous forme de livres. J'ai écrit une plaquette pour les adolescents. Je fais de temps en temps, lorsque je suis sollicité, un article dans une revue ou une autre, sur un sujet qui relève de ma compétence, ou bien parfois c'est le texte d'une conférence qui est repris. Enfin, j'écris pas beaucoup.
Et quels sont les projets à court et à long terme qui vous tiennent le plus à cœur? Ne comptez-vous pas, par exemple, fonder une association qui s'occupe particulièrement de ce genre de problème-là dont vous venez de parler?
Je n'ai pas d'autre projet que celui d'être utile au Seigneur, là où il m'a placé, et puis aux gens qui sont confrontés à ce genre de problème, puisque j'ai une compétence spécifique, je la mets à disposition. Bon, pour ce qui est d'une association, vous savez, il y a beaucoup d'associations. Et je ne vois pas d'intérêt à créer encore une association, alors que d'autres avec lesquelles je collabore à l'occasion font déjà un travail où les questions de sexualité peuvent être abordées. Je pense à Mission Vie Famille, par exemple. Je pense à Famille Je T'aime. Je pense à l'association des conseillers chrétiens, où il y a des conseillers conjugaux chrétiens. Je pense au réseau de soutien et d'aide au ministère pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Donc, dans la mesure où je pense aussi à l'association Osons en parler, qui travaille particulièrement, ou Torrent de Vie, des associations qui s'adressent particulièrement, je dirais, à des blessés de la vie affectif et qui souffrent aussi des problèmes d'orientation sexuelle. Bon, ces associations existent, donc ça ne sert à rien de créer une association de plus.
Est-ce qu'à votre avis, il y a suffisamment de publications, bien publicité pour ces associations, pour permettre au plus grand nombre d'être au courant de leur existence, pour solliciter leur aide?
Il faudrait que les pasteurs se soucient un petit peu de répercuter dans leurs églises l'existence de ces associations. Bon, en général, beaucoup de pasteurs les connaissent, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de publicité à l'égard de ces associations.
La radio Ebenezer International, nous allons essayer de nous occuper de cette question de publicité, puisqu'il y a tellement de personnes en souffrance qui ont besoin de l'aide. Si ces associations existent, il faut qu'on découvre leur existence. Alors, Monsieur Eckermann, avez-vous une pensée particulière pour les auditeurs ou les auditrices qui endurent en ce moment peut-être de grandes souffrances intérieures dues à un ou à des abus sexuels, par exemple?
Je crois que c'est important de se souvenir que Dieu est tout-puissant. Et la guérison de toutes les blessures, la délivrance, sont possibles. Mais souvent, la prière est considérée comme une sorte de baguette magique. Moi, je vois souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « J'ai prié, le Seigneur n'a pas répondu. » Mais la prière toute seule, souvent, c'est un refuge qui empêche de réfléchir vraiment en profondeur sur les causes des problèmes. Et la prière toute seule ne permet pas toujours d'arriver à la guérison. Il faut parfois plus que la prière, comme pour la maladie, c'est Dieu qui guérit, hein, mais il peut aussi se servir de spécialistes, hein, de conseillers conjugaux, de psychologues, de sexologues, de médecins. Hein. J'aurais juste, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donner deux paroles bibliques. Hein. Dieu dit à son peuple, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ce qu'il dit, c'est ce que dit Moïse, ce que Dieu dit à Moïse dans Exode 15, 26. Hein. Et puis par rapport à l'esclavage que représente souvent la sexualité, parce que source de plaisir, elle peut devenir un esclavage, comme une drogue ou comme l'alcool, hein, ou le tabac. Hein. Et bien par rapport à l'esclavage, je lirai Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Merci. Et quel est votre dernier mot, Monsieur Roger Eckermann, pour conclure?
Eh bien, le sexe a souvent été perverti. Il est devenu un élément fondamental de la tentation, mais c'est un merveilleux don de Dieu. Il faut le recevoir ainsi comme un don de Dieu et l'utiliser avec son mode d'emploi, c'est-à-dire pour le couple, puisque c'est pour le couple que Dieu l'a donné. Et si, même dans le couple, il peut arriver que le sexe pose problème pour une raison ou une autre, bien la guérison est possible. Mais cela ne viendra pas tout seul. Il faut prier, certes, mais il faut aussi tout mettre en œuvre pour avoir cette guérison.
Il faut tout mettre en œuvre pour avoir ces guérisons. Monsieur Eckermann, la radio Ebenezer International vous remercie et vous souhaite une bonne continuation dans ce ministère.
Merci.
Sociopod, Santo Digital Gospel Journal, Ebenezer International, the very best in Christian music. Et pour la dernière pause musicale à l'émission Sociopod, accueillons Danny et Moïse Urtrel, accompagnés d'une grande chorale, dans un chant intitulé Flagrant délit. Je vous souhaite une agréable écoute.
Condamné à mort, flagrant délit. Condamné à mort, ils ont été pris. Condamné à mort, dans la loi c'est écrit. Et toi Jésus, qu'est-ce que tu dis? Là devant Jésus, ils ont traîné la femme adultère, prêt à jeter la pierre qui tue, puisque c'est la loi, il faut le faire. Condamné à mort, flagrant délit. Condamné à mort, ils ont été pris. Condamné à mort, dans la loi c'est écrit. Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Qui parmi vous est sans péché, qui lui jette le premier la pierre? Jésus, après ça, s'est baissé et s'est mis à écrire sur la terre.
Condamné à mort,
flagrant délit. Et toi Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Et toi Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Nul ne sait ce qui fut écrit, mais l'un après l'autre, ils sont partis. Et la pauvre femme perdue s'est retrouvée seule avec Jésus. Et toi Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Et toi Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Où sont donc ceux qui t'accusaient?
Voici, ils ne t'ont pas condamné.
Je ne te condamne pas non plus.
Lève-toi, va et ne pêche plus.
toi Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Toi Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour l'aimer. Et si facile le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder. Celui qui se repent est pardonné, c'est pour moi qu'il a la vraie liberté. Toutes ses fautes ont été oubliées, et rien ne pourra plus le condamner.
Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs et auditrices fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, nous arrivons à la fin de ce programme qui nous a permis d'écouter la deuxième partie de notre entretien avec M. Roger Eckermann, ce sexothérapeute chrétien qui met toute sa connaissance, tout son savoir, toutes ses compétences au service de ses frères et sœurs. Puisse le Seigneur continuer de l'utiliser dans ce domaine afin d'aider ceux qui souffrent, ceux qui ont l'âme meurtrie, de retrouver la paix, la guérison que leur propose le Seigneur Jésus, le seul sauveur de l'humanité. Et juste avant de partir, j'aimerais remercier sincèrement M. Eckermann d'avoir non seulement accepté notre invitation pour participer à l'émission, mais qui a consacré beaucoup de temps pour la préparation de son intervention. Nous le remercions d'autant plus qu'en sachant le sacrifice qu'il a consenti afin de nous accueillir chez lui dans le cadre de ce programme. Mes remerciements vont également vers les artistes Philippe Decourou, Nawel, qui sera notre invité dans une édition spéciale de Mykonak, Dany et Moïse Urtrel, sans oublier M. Georges Seba, le maestro du chœur gospel de Paris, que nous accueillerons aussi avec beaucoup de plaisir dans une édition spéciale de Gospel Plus. Sans oublier l'artiste chrétien Pat Burnin, à qui nous devons notre générique. Fraternel remerciement au groupe Jeunesse en Mission et plus particulièrement le frère Sylvain Frémont, à qui nous devons la version instrumentale que vous avez écoutée tout le long de cette interview. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étiez à l'écoute depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute inconditionnelle et prie pour que le Seigneur continue d'utiliser nos différentes émissions pour vous aider à mieux le connaître. Dans l'espoir de vous retrouver lors d'une prochaine édition de Sociopod, je prie pour qu'il répande sur vous ses plus riches bénédictions. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation votre ami podcasteur Franck Touristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Vous venez d'écouter Sociopod sur la radio chrétienne Ebenezer International, Digital Gospel Journal, your station.
Of diseases, people are slipping away. Economy is down, people don't get enough pay. But as for me, all I can say is thank you, Lord, for all you've done for me. Yeah, 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 oh, oh, yeah,
yeah, yeah, yeah. Fought without a home, caught in the street.
We just can't be Maggots and Rovers. No place seems to be safe.
But you'll be my protection. Never escape or come away. And I wanna stay.
Paris.